Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux violences conjugales. À l'ordre du jour ce soir, violences conjugales, les promesses du Grenelle ont-elles été tenues? Il y a un an se concluaient 3 mois de débat entre le gouvernement d'Édouard Philippe et les acteurs sociaux qui se battaient contre les violences conjugales. Ce Grenelle, comme il avait été appelé, devait mettre rapidement en œuvre une série de mesures destinées à protéger les femmes menacées dans un pays qui connaissait alors un record de féminicides. C'était l'année 2019. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le président de la République a redit dans un message vidéo que cette question était à ses yeux la grande cause de son quinquennat. Alors, un an après le Grenelle, comment cette cause a-t-elle évolué? C'est ce que nous verrons en compagnie de nos 3 invités, de Françoise Brié. Bonsoir Françoise Brié.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe 73 associations, qui gère entre autres le 39-19. Et vous êtes membre du Grévio, un groupe d'experts et d'expertes veillant à la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection et la prévention des femmes de violence. Avec nous, Anne-Cécile Maillefer, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de la Fondation des Femmes et Philippe Callen est également avec nous en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Paris au Pôle Famille et vous êtes ancien vice-président du TGI de Pontoise en charge des affaires familiales.
Exactement. Alors, on ne rase plus les murs, on les recouvre.
Oui.
On arrêtera de coller quand vous arrêterez de violer.
Oui.
La rue est aussi à nous.
Oui.
Le sexisme est partout, nous aussi. Oui. La justice protège les violeurs.
Oui. Yeah.
99% des violeurs en liberté.
Ah.
Notre sang sur vos murs.
Yes.
Et ensuite, j'ai le doute profite aux violeurs. Et yes. Ensuite, j'ai on ne naît pas femme, mais on en meurt.
Bah, celui-là, on peut le coller en premier. Ouais.
Lequel?
On n'est pas femme, mais on en meurt.
Ok.
Voilà un extrait de reportage de l'émission C'est déjà demain d'Antoine Chao, diffusé le 10 octobre dernier sur France Inter, des colosses du collectif Collage Féminicide Paris. Anne-Cécile Maillefer, ces collages, on les voit maintenant depuis plusieurs mois sur les murs de Paris, mais également un peu partout en France. Ils ont permis justement une prise de conscience en étant présents dans les rues, dans l'espace public, une prise de conscience qui n'avait peut-être pas eu lieu auparavant justement de ces féminicides et de ces violences conjugales.
Alors effectivement, ces collages, donc c'est une jeune militante qui s'appelle Marguerite Stern qui a décidé toute seule un jour d'aller coller les noms des femmes qui avaient été tuées avec leur âge sur les murs de Paris. Et puis en fait, c'est devenu, ça a pris. Et aujourd'hui, on peut en voir partout. Et c'est des collectifs comme ça qui sont très informels, qui vont se réunir. C'est très simple, il suffit d'avoir un pinceau, de la peinture noire et du papier, des feuilles A4 et on peut le faire avec de la colle à papier peint. Et c'est vraiment assez fabuleux ce qu'elle a réussi à faire. C'est un mouvement qui met vraiment en lumière les femmes qui ont été tuées, les femmes victimes de féminicides. Et c'est vrai que même si on a une prise de conscience qui augmente dans la société grâce au travail formidable d'ailleurs des associations féministes depuis des dizaines d'années, c'est vrai que ces collages ont permis de mettre l'accent sur une notion qui est assez récente, la notion de féminicide. Donc le fait qu'une femme soit tuée parce qu'elle est femme, et tout particulièrement le féminicide conjugal. Donc elle est tuée par son mari parce qu'il ne supporte pas, parce qu'en réflexe machiste, parce qu'il ne supporte pas, par exemple, qu'elle veuille le quitter.
Ou son ex-compagnon.
Ça, ces féminicides ont vraiment été, son compagnon ou son ex-compagnon, pardon, effectivement. Et ça, ça a vraiment été mis en lumière par ces collages et c'est devenu dans la société un vrai sujet tout au long de l'année 2019. Une année d'ailleurs 2019 qui, il faut aussi le rappeler, c'est d'autant plus important qu'il y ait eu ces mobilisations parce que c'est une année tristement record en termes de féminicides avec plus de 142 féminicides en 2019. C'est 20%, un peu plus entre 20 et 25% de plus que 2018. Donc on était sur une augmentation qui était affolante et grâce à Marguerite Stern, aux colleuses et grâce à d'autres mobilisations, on se souvient aussi du 25 novembre 2019 avec des dizaines de milliers de personnes dans les rues, dans toutes les villes de France, il y a eu, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un avant et un après sur cette question des féminicides et des violences dans le couple.
C'est amusant parce que vous ne mettez pas l'avant et après Grenelle, mais vous mettez l'avant et après mobilisation dans les rues, en l'occurrence. Pourtant, effectivement, le Grenelle a dû prendre en charge en partie aussi ces mobilisations pour pouvoir décider de politique, justement, pour empêcher ces violences conjugales, y mettre un terme, s'il était possible d'y mettre un terme. Est-ce que la parole politique vous apparaît moins importante, Anne-Cécile Maillefert, que la parole, justement, des associations, de toutes celles et de tous ceux qui se sont mobilisés contre ces violences conjugales?
Elle n'est pas moins importante. Moi, je dirais qu'elle y succède. Elle y succède dans le temps. Le Grenelle des violences conjugales, ça fait partie des demandes associatives. Hein. C'était une demande de la Fondation des femmes au mois de juillet 2019. On a demandé. On avait lancé un appel dans le Parisien. On avait été sollicité un peu différents ministres en leur disant voilà, regardez, les chiffres sont en train d'exploser. Il y a des tas de dysfonctionnements. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Et ce sont des femmes qu'on aurait dû protéger, qui meurent. C'est des femmes, en fait, ce sont des féminicides qu'on pourrait éviter. Et donc, il faut faire un Grenelle d'urgence, rassembler tous les acteurs, que ce soit société civile ou les acteurs, les institutions, et dans les différents niveaux des administrations, pour vraiment donner un coup de boost à la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que là, on arrive sur des chiffres qui sont absolument dramatiques. Et la parole politique, elle a été forte. Et d'ailleurs, pendant le Grenelle, et même après, hein, pendant le premier confinement, on a quand même vu une très forte communication institutionnelle qu'on salue. Mais pour moi, elle suit la mobilisation des gens. Et donc, c'est aussi un message pour vos auditeurs et auditrices. C'est vraiment grâce au fait que partout en France, les Françaises et les Français se disent « ça n'est plus possible », qu'en réaction, on voit une augmentation de la prise de conscience aussi politique et de l'implication politique.
Alors, Françoise Brier, vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère entre autres le 3919, ce numéro de téléphone qui permet justement d'avoir des personnes qui vous conseillent lorsque vous êtes donc en danger, en l'occurrence, et que ces femmes sont en danger vis-à-vis de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Françoise Brier, il y avait... Alors, j'ai eu du mal d'ailleurs à savoir combien de fêtes avaient été mises au jour au moment du Grenelle, donc l'année dernière, il y a un an, et en particulier combien de décisions avaient été prises, puisque j'ai lu quelquefois 30 dans les journaux, d'autres fois j'en ai lu 46, c'était sous la dictée, pourrait-on dire, de Elisabeth Morino, la ministre, qui a dit il y a 46 décisions qui ont été prises et qui sont mises en œuvre cette année. C'est combien de décisions le Grenelle, justement, sur les violences conjugales?
Écoutez, je pense qu'il y a eu effectivement plus de 40 mesures qui ont été proposées à travers des groupes de travail qui ont été menés par le ministère de la Justice, par les services de police et de gendarmerie, par la DGCS, c'est-à-dire la Direction Générale de la Cohésion Sociale et le Service aux Droits des Femmes et à l'Égalité, et d'autres ministères. Voilà, c'était des groupes de travail interministériels, voilà, qui ont permis de réfléchir ensemble, en tous les cas, à différentes mesures, et puis des mesures législatives aussi. Il y a eu beaucoup d'auditions au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat pour essayer, en tous les cas, d'avancer vers une meilleure des modifications législatives pour améliorer la loi, qui, je le rappelle, n'est pas si récente que ça. En tous les cas, les lois ont évolué en France sur les violences conjugales depuis 1992 seulement, donc on est début des années 90. C'est vraiment les grands mouvements législatifs qui ont abouti aujourd'hui à un arsenal législatif complet. Bon, il y a eu des améliorations dans la loi du fait du Grenelle. Nous avons salué un certain nombre de ces avancées, comme le renforcement de la répression de certaines infractions au sein du couple, comme l'incrimination du suicide, les cyberviolences, les mesures de protection comme le bracelet anti-rapprochement. Et aussi des avancées sur l'autorité parentale, même si nous, on estime qu'il aurait fallu aller encore un peu plus loin. Et puis, évidemment, il reste à appliquer maintenant cet ensemble de lois. Et on sait que c'est là où souvent il y a des difficultés pour le parcours des femmes, avec des disparités dans les différents départements.
On va y revenir avec vous, ainsi qu'avec notre autre invité, Philippe Callen. Philippe Callen, vous êtes président de chambre à la Cour d'appel de Paris, au pôle famille. Vous exprimez en votre nom propre. Vous n'êtes pas le représentant du ministère de la Justice ici même, mais néanmoins, l'originalité, ça a été pointé du doigt par Françoise Brier et par Anne-Cécile Maillefert, c'est justement que ce Grenelle a permis un brassage entre des ministères, de l'interministériel qui est nécessaire, peut-être pas suffisant d'ailleurs, parce qu'il pourrait être encore plus intégré, de l'interministériel et des associations qui militent sur le terrain, et que cela, ça change les mentalités aussi, Philippe Calen.
Alors, effectivement, et heureusement qu'il y a eu l'intervention de militantes pour dire que la violence ne pouvait plus continuer. Heureusement qu'on a eu des militantes pour indiquer que la justice n'agit pas assez. Il y a vraiment eu en la matière, je parle en mon nom propre, il y a vraiment eu une prise de conscience. Avant le Grenelle, on avait toute une série d'expérimentations qui dépendaient de la bonne volonté des gens. Par exemple, à Pontoise, on avait fait un protocole d'accord sur l'ordonnance de protection qui réunissait police, gendarmerie, huissiers, associations de défense faites aux femmes, mais on s'est bien rendu compte que les violences conjugales ne faisaient qu'augmenter et qui manquait une politique générale. En la matière, et je parle en mon nom propre, c'est vrai que les paroles du président Macron d'essayer de faire que soit une grande cause de son quinquennat la lutte contre les violences faites aux femmes, ça s'est traduit en chiffres. Si vous voulez, j'ai quelques chiffres, je peux vous les donner. Il y a toujours trop de femmes, c'est un drame à chaque fois, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Mais fin 2020, on va arriver cette année, on va enregistrer le nombre le plus faible de femmes décédées des suites d'un homicide. Voilà. Par rapport à l'augmentation qu'il y a eu chaque année, et comme l'a indiqué, je crois que c'est Madame Maillefer, en 2018, on était à 121 femmes tuées, en 2019, 173 femmes tuées. On a ça, on a la multiplication d'outils avec l'ordonnance de protection. En 2018, 2400 ordonnances de protection rendues. En 2020, 4000, un taux d'augmentation de 60%. Le taux d'acceptation est d'environ 70%, tout comme en Espagne. On a eu une multiplication des téléphones grand ou grave danger en fin 2018 pour voir d'où on arrive quand même. Il y en avait que 227 qui étaient distribués dans toute la France. Aujourd'hui, on a 1201 avec téléphone grave danger, avec un temps de décroche du téléphone de moins de 7 secondes. On a, comme l'a dit Madame Maillefer et Brié, le bracelet anti-rapprochement, où on a plus de 1000 dispositifs de bracelet anti-rapprochement.
Pour éviter qu'un ancien conjoint vienne se rapprocher,
exactement. Dans le domaine du retrait de l'autorité parentale, des choses ont quand même évolué au niveau pénal. En 2017, il n'y avait que 9 décisions de retrait d'autorité parentale pour un individu violent qui a frappé sa compagne. Aujourd'hui, on en est à 111. Alors, tout ce travail-là, vous voyez, il a été fait quand même avec un certain nombre de lois, de circulaires, de décrets. Ce qui est intéressant à voir, c'est que tous, Madame Maillefer, Madame Brié, Monsieur Calen, et sous l'impulsion de Madame Rome, on est tous animés avec des sensibilités différentes, mais avec le sens commun, défendre, finalement, c'est l'esprit humaniste et républicain. Ça ne veut pas dire, je continue après, je dirais que si on a moins de femmes tuées sous les coups de son conjoint, ça ne veut pas dire que la société elle est moins violente. Bien au contraire, la société, on l'a vu avec le confinement, elle est beaucoup plus violente. Mais on a développé un certain nombre de dispositifs. Ça veut dire qu'effectivement, on doit développer l'éducation. On doit creuser le sillon de l'humanisme.
Oui, sur ce point, Anne-Cécile Maillefer, c'est vrai que cette année a été très particulière et vous y insistez, y compris dans le rapport 2020 de la Fondation des Femmes. Il y a cette question que, le moment du confinement, du premier confinement, a été un moment très dur parce que effectivement, il y a eu une augmentation de violence, mais aussi augmentation des mobilisations, dites-vous. Augmentation aussi du travail associatif justement pour pouvoir sortir les femmes menacées justement des griffes de leur conjoint ou de leur ex-conjoint qui les menaçait, et cela c'était quelque chose de très important que de le dire aussi, Anne-Cécile Maillefer.
Ouais, effectivement, moi ça me semble important d'expliquer ce qui s'est aussi bien passé pendant ce premier confinement. Pour rappel, le premier confinement arrive, personne n'a jamais vécu cette situation, y compris les associations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences. Et donc on se retrouve, tout d'un coup, tout est fermé, y compris des centres d'hébergement qui ne peuvent pas accueillir de nouvelles personnes parce qu'ils sont eux-mêmes confinés. Plus d'hôtels, hôtels fermés, les banques alimentaires fermées, plus de bénévoles dans les Restos du Cœur. Donc vraiment, tout d'un coup, toutes les... possibilités de solidarité qui existent d'habitude et qui permettent aux associations qui accueillent les femmes victimes de violences de faire leur travail, tout d'un coup, tout est par terre, quoi. Donc, il a fallu tout réinventer. Et en quelques jours, avec la Fondation des Femmes, avec tout le réseau d'associations partenaires, et en particulier la FNSF, hein, que représente Françoise Brié ce soir, on a réussi à remonter vraiment, on attend record, et grâce à la générosité des donateurs et donatrices de la Fondation des Femmes, un vrai réseau de solidarité tout à fait nouveau, avec, on a ouvert, on a réutilisé par exemple des résidences universitaires où il n'y avait plus d'étudiants, et ben en fait on a fait en sorte qu'on puisse y loger des femmes victimes de violences. On a réouvert aussi un château en Île-de-France, qui était d'habitude un château de séminaire d'entreprise, et là évidemment plus de séminaire d'entreprise, donc on a pu le réutiliser, on a hébergé une cinquantaine de femmes avec leurs enfants dans un grand parc, ça a été vraiment des expériences formidables. Et parallèlement à ça, ça c'est la mobilisation associative, et la générosité des Françaises et des Français nous a vraiment énormément aidés à faire ça. Il y a eu une mobilisation sans précédent, à mon sens, en tout cas c'est ce que nous disent les associations, de la police, de la justice, de la communication institutionnelle, que ce soit du gouvernement, des mairies, des régies d'immeubles, sur les dispositifs existants, sur le 3919, le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, sur le 17 pour la police, le 114 pour les SMS. Et donc on a eu comme ça, pendant quelques semaines, une explosion de la violence intrafamiliale, certainement. Quand on regarde les chiffres, c'est le cas. Mais également, une réponse vraiment assez exemplaire. On voit par exemple qu'il y a 48% d'intervention de police à domicile pour, entre guillemets, indifférents familiaux. Ouais. Augmentation de 48% en France et 33% dans la capitale. Et ça, c'est à la fois parce qu'il y a plus de violence, mais c'est aussi parce que tout d'un coup, les policiers viennent. Alors, ça vous paraît peut-être normal, mais c'est pas forcément le cas toujours.
Mais évidemment, coup, ça c'était...
Les policiers viennent à domicile quand on les appelle.
Ça, c'était au moment du premier confinement, mais on peut dire, Françoise Brié, que évidemment il y a le déconfinement, il y a aussi le reconfinement dans lequel nous nous trouvons. Vous qui gérez en particulier ce numéro d'appel qui est le 3919, est-ce que vous voyez des différences justement notables entre ce moment qu'a décrit Anne-Cécile Maillefer, qui était à la fois un moment terrible parce que plus dur pour les femmes menacées, mais également un moment de solidarité peut-être plus grand, et puis le moment que nous connaissons ces temps-ci, Françoise Brié?
Oui, donc la ligne d'écoute nationale, le 3919, donc Violence Ma Femme Info, était extrêmement sollicitée durant le premier confinement, hein, puisqu'on a eu près de 50 000 appels entrant en deux mois. Donc on voit l'ampleur à la fois de la communication, hein, qui a eu un impact sur les femmes, et de la nécessité pour elles de trouver des sorties. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le 3919, il est aussi adossé à des associations locales, dont les 73 associations de notre réseau, qui ont des centres d'accueil et des centres d'hébergement, qui se sont, durant le premier confinement, réorganisés, mais de façon, je dirais, plus progressive, hein, avec un confinement qui était beaucoup plus dur, donc avec aussi des difficultés plus importantes. Ensuite, le déconfinement a évidemment amené, je dirais, moins d'appels sur la ligne d'écoute, avec, par contre, au niveau des associations locales, des entrées et des demandes des femmes extrêmement importantes, puisqu'on a vu des femmes qui avaient subi des violences très graves durant le confinement et qui sont arrivées dans les centres avec des demandes importantes, avec une précarisation aussi accrue. Et puis voilà, les associations se sont ont continué leurs activités à la fois de façon très très importante, hein, après le déconfinement. Et puis le deuxième confinement est moins lourd, c'est-à-dire qu'on a quand même la possibilité pour les femmes de sortir, d'aller amener les enfants à l'école. Donc au niveau de la ligne d'écoute nationale, un peu moins d'appels, même si le rythme d'appels reste très soutenu. Et aujourd'hui, on a eu plus de 1000 appels entrants avec la campagne de communication. Mais les associations locales ont appris aussi du premier confinement. Elles ont tiré des expériences. Elles ont aussi innové des nouveaux dispositifs. Elles se sont organisées pour assurer leurs entretiens, à la fois par téléphone, mais aussi pour accompagner les femmes physiquement dans les tribunaux lorsque les situations sont très graves. Donc on voit que ces deux confinements ont évidemment eu un impact sur les femmes, avec une réorganisation aussi des associations pour leur continuité de service.
Mais Philippe Allen nous dressait tout à l'heure un bilan qu'il estimait important, justement, de cette collaboration entre associations, ministères, justice, etc. Vous avez quel bilan un an après le premier la fin du Grenelle, justement, exactement un an, jour pour jour. Je crois que vous êtes, vous trouvez que sur le plan législatif et judiciaire, vous seriez plutôt proche de ce que disait Philippe Calen sur disons, l'attention portée à cette question-là. Mais il manque peut-être moyens, il manque peut-être des actions concrètes qui vous semblent importantes, Françoise Brier et Anne-Cécile Maillefert. Surtout Françoise Brier, je redonnerai la parole ensuite à Anne-Cécile Maillefert.
La question de la législative, nous, on avait une demande particulière qui était l'inscription dans la loi des situations de violence conjugale comme des motifs graves justifiant le retrait du droit d'hébergement. On avait une demande aussi sur l'exclusion de la résidence alternée et la possibilité pour les femmes victimes de dissimuler l'adresse des enfants ainsi que leur école.
Ça n'est pas le cas.
Au-delà des ordonnances de protection, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que nous allons poursuivre nos demandes en ce sens parce qu'on estime que les violences post-séparation peuvent être extrêmement graves, qu'elles ont souvent lieu à travers les enfants et les droits de visite, d'hébergement et l'exercice de l'autorité parentale. Donc, il faut absolument qu'on améliore encore la loi et qu'il y ait une vraie compréhension de cette dangerosité des auteurs de violences après la séparation. Il y a aussi des questions, cet après-midi j'étais à un colloque à l'Assemblée nationale pour parler des violences économiques, donc ça aussi c'est un sujet qu'on souhaiterait développer. Et puis après sur la question des moyens, oui, évidemment on voit les demandes de femmes pour des places d'hébergement dans nos centres qui peuvent pas être répondues parce que il n'y a plus de place, donc il faut absolument qu'on arrive à renforcer nos centres d'hébergement spécialisés, parce que c'est important pour les femmes d'être dans des centres spécifiques où elles se retrouvent entre femmes victimes de violences pour pouvoir avoir ce travail sur les violences, comprendre que c'est un problème collectif, un problème de société, se reconstruire avec des équipes bien formées, expérimentées, avant de passer dans le droit commun. Et là, on a une déception, effectivement, de ne pas pouvoir avoir autant de places qu'on le souhaitait. Et pareil pour le renforcement de nos centres d'accueil. Voilà, on espère que cette année 2020-2021, le renforcement des moyens de ces centres pour qu'ils puissent continuer à accueillir toutes les femmes qui le demandent.
Vous écoutez Le Temps du Débat, 18h41, violence conjugale, les engagements du Grenelle ont-ils été tenus ?
Les premières manifestations concrètes, c'était de la violence psychologique, enfin des insultes, des trucs comme ça. Et ensuite, à partir du moment où j'ai emménagé donc, chez lui, là, on est tombé dans une violence physique claire, c'est-à-dire des gifles, me serrer très fort les poignets ou les bras, à m'en faire des marques, des bleus, etc., en hurlant. Et on est passé des insultes aux menaces. D'abord des menaces de me faire mal, et ensuite on est passé à des menaces carrément de me tuer, des menaces de mort. Et au plus gros de la violence, c'était des coups de pied dans les jambes, dans les bras et dans le ventre, à des endroits où ça allait pas se voir, jamais le visage. Et des scènes aussi, et là c'est le plus horrible, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Voilà. Ça se passait tout le temps quand on était couchés dans le lit. Il s'énervait, dans le noir en plus, donc c'est un côté un peu anxiogène. Il mettait ses mains autour de ma gorge et il m'étranglait en me disant « je vais te tuer, cette fois c'est la bonne, tu vas mourir ». Et jusqu'à des moments où je me sentais vraiment partir, et où je me disais moi aussi « bah ouais, cette fois-ci c'est la bonne ». Et quoi que je fasse, que je me débatte, que je crie, que j'essaie de le calmer par des paroles ou que je fasse la morte, il s'arrêtait que quand il avait l'instinct que là, il tenait 10 secondes de plus et j'allais vraiment m'évanouir. Au début, c'était assez espacé. Je n'ai pas compté, mais c'était peut-être un truc tous les mois. Ensuite, ça a été un truc toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines, toutes les semaines. Et à un moment, proche de la fin, c'était tous les jours.
France Culture. Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Un extrait d'un numéro des Pieds sur Terre diffusé le 24 février de cette année sur France Culture. Un témoignage recueilli par Mathieu Palin et réalisé par Cécile Lafont. Du type de témoignage que l'on recueille évidemment en justice ou en commissariat ou en gendarmerie de ces violences faites aux femmes. Est-ce que ce qui est important selon vous, Philippe Calen, ça n'est pas qu'au bout du compte, il y a un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'il y ait, par la mobilisation dont on a entendu parler, par le Grenelle soi-même, mais aussi par toutes les manifestations féministes, que des acteurs qui n'étaient pas persuadés de l'importance de ce fait s'y soient et étaient convaincus, Philippe Calen.
Alors, vous avez tout à fait raison, et on voit que dans des problèmes, dans des difficultés sociétales, effectivement, on doit réfléchir et travailler ensemble. Voilà, la violence à l'égard des femmes, elle est inadmissible. On voit que quand les femmes sont victimes de violences, comme on va dire les homosexuels, là, une société va mal. Voilà, notre société va mal en la matière, très mal. Et pourquoi laisser
toutes simplement... les scènes de domination, quelles
voilà,
qu'elles soient.
Voilà, exactement. Pourquoi laisser au seul juge une réponse judiciaire en la matière? L'avantage du Grenelle des violences faites aux femmes, c'était de permettre aux associations, aux gendarmes, aux policiers, aux juges, aux avocats, de réfléchir ensemble et de trouver ensemble des moyens. Donc, comme a bien dit Madame Brié ou Madame Maillefer, vous avez vu que le taux d'intervention de la police et de la gendarmerie, il a quand même explosé, parce que maintenant, on a quand même des formations des professionnels au phénomène de l'emprise. Les juges également n'avaient pas cette formation-là. L'école de la magistrature a rendu obligatoire la formation pour les juges de kits de formation sur le phénomène de l'emprise, de la violence. Pour revenir sur le phénomène des enfants, effectivement, là la justice, grâce aux associations, réfléchit encore plus, parce que c'est vrai que les enfants ne sont pas témoins directs ou indirects des violences. Ils sont au cœur de la situation de violence, ils sont des victimes directes ou indirectes. Et ça, effectivement, c'est un travail très intéressant qui a été fait par tous ces ateliers, ces groupes, qui s'est traduit très rapidement par des lois. Regardez quand même, en 6 mois, on a pour l'ordonnance de protection, maintenant avec la loi Pradié, le juge, quelle révolution et quel travail aussi, le juge doit rendre, même si c'est un peu critiqué au niveau du principe du contradictoire, doit rendre une décision dans les 6 jours. Vous voyez, il y a quand même une prise en compte qui est très importante.
Anne-Cécile Maillefer, sur ces points en particulier, je crois qu'une des demandes des associations, c'était qu'il y ait des tribunaux spécialisés, comme en Espagne, je crois, et que cette demande n'a pas été a été formulée par les associations, mais n'a pas été accordée par le gouvernement. Ça pourrait être une solution aussi d'avoir des tribunaux spécialisés sur ces violences conjugales et faites aux enfants aussi.
Ben oui, effectivement, on a besoin d'un deuxième Grenelle pour vraiment refonder un peu en profondeur en fait certaines choses, dont la justice. C'est vrai que la justice continue à être un vrai dédale pour les femmes victimes, même si des choses s'améliorent, c'est sûr, même s'il y a la formation, bien sûr. En réalité, il y a énormément de dossiers qui sont classés sans suite, de plaintes qui sont classées sans suite. Ça peut être très compliqué pour des femmes, mais c'est un vrai dédale entre le juge aux affaires familiales, entre le juge au pénal, au civil. Si on n'a pas d'avocate ou d'avocat, on est complètement perdu, on ne comprend pas ce qu'il faut faire. L'ordonnance de protection, soi-disant, on devrait être capable de l'écrire soi-même et de l'envoyer avant même d'aller porter plainte ou de trouver un avocat ou une avocate, et en réalité, c'est quand même très compliqué. Donc ça reste compliqué, même si les choses vont dans le bon sens et s'améliorent, ça reste un vrai dédale qu'il faut améliorer. Et au-delà de l'amélioration de la justice, parce que il faut que ces crimes puissent être punis, il faut que ces délits puissent être mieux punis, il faut que ça aille beaucoup plus vite, c'est-à-dire que quand on dénonce des faits et que c'est jugé 3 ans plus tard, c'est pas possible. Par ailleurs, nous, ce qu'on demande, c'est également une réforme du pilotage de cette politique, parce que
qu'est-ce que vous appelez pilotage de cette politique?
En fait, on a, ça a été l'idée de ce Grenelle, hein, c'était de se dire, comme il y a plusieurs ministères, administrations, institutions et les associations, et tout le monde fait un peu dans son coin, il y a des petites expérimentations à droite, à gauche, donc tout ça c'est très gentil, mais ça fait des belles annonces politiques, mais en fait on est sur des délits de masse, hein, c'est 213 000 femmes par an qui en sont victimes en France, donc on a besoin de réponses à la hauteur, et on a besoin surtout de s'assurer que les choses sont efficaces et vont jusqu'en bas sur le terrain, parce qu'une belle loi c'est bien, mais si la dame à la fin du compte, on lui claque la porte au commissariat, ou alors que le juge, il a pas pris conscience qu'il fallait ouvrir l'instruction, etc. En fait, la dame, elle, ça lui sert à rien, finalement, qu'on a fait des belles lois et des belles manifestations. Donc, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait aussi que la ministre en charge des droits des femmes, ou d'autres, je ne sais pas, mais soit vraiment en capacité de pouvoir piloter ça. Et donc,
vous voulez dire qu'il faut plus d'interministériel, c'est ce que vous voulez dire?
Il faut plus d'interministériel, mais avec un vrai pouvoir de pouvoir demander des comptes à Dupond-Moretti, où est-ce qu'il en est, demander des comptes à Darmanin, par exemple, en ce moment, ce qu'on a dit sur l'augmentation des interventions de police, c'était pendant le premier confinement. Là, on est redevenu, en fait, les mauvaises habitudes ont repris, malheureusement, le dessus. En septembre, Darmanin a mis ses troupes sur les fumeurs de joint. Là, on est sur les migrants et leurs tentes Place de la République. On n'est pas du tout sur le sujet des violences faites aux femmes.
Ça ne doit pas être aussi simple que ça. On ne transfère pas les effectifs d'un côté sur l'autre.
En fait, malheureusement, c'est aussi simple que ça. On a des effectifs qui ne sont pas sans limite au ministère de l'Intérieur. Donc, quelle est la priorité pour le ministre en ce moment? Et en fait, la priorité pour le ministre en ce moment, malheureusement, ce ne sont pas les violences faites aux femmes. Et c'est la différence avec ce qui s'était passé pendant le premier confinement. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on voit dans les analyses qu'on tire du premier confinement. Et pourquoi ça a bien marché? Ça a bien marché parce qu'en fait, il y a eu des directives très claires. On a dit aux policiers, c'est violence intrafamiliale, vous devez intervenir immédiatement. C'est ça la priorité. La justice, il y avait le confinement, donc en fait la plupart des dossiers étaient suspendus, sauf les dossiers pour violence conjugale, donc en fait ils sont passés en priorité. Il y avait une réactivité qui était vraiment formidable. Et quand les violences faites aux femmes deviennent quand on fait passer d'autres choses prioritaires par rapport aux violences faites aux femmes, ça redevient la cinquième roue du carrosse. On trouve ça très bien de lutter contre les violences faites aux femmes, mais enfin bon, c'est quand même pas la priorité, il y a d'autres choses plus prioritaires, et c'est ça le problème, et c'est là où le bas blesse, et vraiment pouvoir suivre ça, vérifier l'efficacité, par exemple les 1000 places d'hébergement d'urgence, la ministre des droits des femmes n'est pas capable de dire qui ont soi-disant été créées, n'est pas capable de dire où elles sont. On ne sait pas où elles sont. Donc en fait, on fait des annonces et ensuite on est incapable de vraiment suivre avec fermeté et s'assurer avec fermeté que les choses sont bien faites et qu'en fin du compte, Madame Michu, elle va pouvoir être bien accompagnée, bien suivie et que où qu'elle habite, expérimentation ou pas, on va pouvoir lui offrir un accompagnement digne.
Philippe Calen, je rappelle que vous n'êtes pas le représentant du ministère de la Justice ici même, mais que vous exprimez en votre nom propre. C'était en tant que président de chambre à la Cour d'appel de Paris, au pôle famille, et ancien vice-président du TGI de Pontoise.
Alors, j'ai participé au Grenelle des violences faites aux femmes. On voit quand même qu'on a des actions très claires et de la réactivité. Et nos deux intervenantes sont d'accord avec moi. On a un combat qui est légitime. Et il y a encore une fois, on l'a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure en chiffres, des résultats qui ont été faits et qui doivent continuer. Ça, c'est clair, qui doivent passer par un changement de mentalité.
Mais sur la dispersion des moyens...
Je vais vous le dire, on a changé de paradigme. On a eu, avant le Grenelle, on a eu des expérimentations. Après le Grenelle, on a toujours des expérimentations qui sont faites et ce qu'on appelle des retextes, des retours d'expérience. Voilà. Et il y a quand même eu un certain nombre de lois, de décrets, de circulaires. Je vous ai dit, heureusement que le nombre de femmes tuées par son conjoint a diminué. Il y a beaucoup de choses à faire. Effectivement, je suis pas une association. Il manque certainement un nombre de places d'hébergement, mais il y a un véritable travail qui est fait. Et moi, j'ai jamais vu autrement un ministère de la Justice qui a quand même mis à sa tête Ernestine René, que tous les défenseurs des droits des femmes connaissent, qui est quand même présidente du Comité national sur l'ordonnance de protection. Mais je rejoins mes interlocutrices. Oui, il y a des choses à faire. Oui, il faut toujours creuser le sillon. Et oui, il y a des choses qui sont inacceptables. Mais on y arrive encore une fois. Alors, pour rebondir sur est-ce qu'il faut des tribunaux spécialisés ou pas, on s'oriente en France. Ce qu'on fait vers des filières de l'urgence. Moi, je suis également, je serais favorable à développer des filières de l'urgence. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens. Moi, je parle en mon nom propre, mais à la Cour d'appel de Paris également, on doit avoir une filière de l'urgence pour les traitements d'appel des ordonnances de protection. On ne peut pas traiter une ordonnance de protection 4 à 6 mois après un éventuel rejet. Donc voilà, mais on doit toujours creuser le sillon. Il en sortira toujours quelque chose.
Ouais, Françoise Brié, on a entendu il y a quelques jours des débats autour de ce numéro, le 3919, dont vous êtes donc en tant que directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère ce numéro. Vous êtes représentante de ces 73 associations qui le gèrent, et aussi cette impression que l'on pourrait avoir que les associations qui ont été à la pointe depuis très longtemps de ces questions des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants, eh bien, se sentent parfois dépossédées, puisque ce numéro du 3919, on vous proposerait de mettre une sorte d'appel d'offres pour l'élargir à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que c'est un numéro qui a été créé, je crois, en 1992 par des associations elles-mêmes, et que vous dites, nous avons une compétence, ça n'est pas un appel d'offres ou une société privée qui pourrait faire le même travail que nous faisons, Françoise Brié. Est-ce que ça fait partie justement des débats et des discussions entre justement l'énergie militante, pourrait-on dire, et la prise en charge par un État de ces questions?
Oui, tout à fait. Alors, je voudrais juste compléter ce qui a été dit précédemment, avant de parler du 39-19. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que tout le long du parcours des femmes, il y ait des structures spécialisées. Ça passe par des brigades au niveau des services de police et de gendarmerie qui soient bien formées, expérimentées et qui soient vraiment dédiée à ces questions pour que les femmes victimes de violences trouvent des interlocuteurs et des interlocutrices.
Et cela, ça commence?
Alors, ça commence, mais souvent, ils sont pas en permanence dans les commissariats, les gendarmeries. Le soir, ils sont pas là, les week-ends non plus. Voilà, il y a beaucoup aussi d'autres, effectivement, faits qui sont traités par des personnes qui analysent tous les délits qui arrivent ou les dépôts de plainte. Donc, il faut vraiment qu'on ait ces espèces de filières, voilà, qui soient vraiment très spécifiques. Et c'est valable, ce que disait monsieur, au niveau des tribunaux, qu'on ait des pôles spécialisés au pénal et au civil. Alors, on peut appeler ça d'urgence, mais qui traite vraiment ces affaires et que le parcours des femmes en soit vraiment raccourci avec des spécialistes. C'est comme en médecine, hein, vous avez des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et donc, quand il y a une situation de violence, eh bien, c'est le spécialiste qui, à un moment donné, doit prendre en charge cette situation une fois qu'il y a eu le repérage effectué et les premières démarches accueillies, en tous les cas. En ce qui concerne le 3919, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un numéro spécialisé pour les femmes victimes de violences qui a effectivement été créé par les associations et grâce au plaidoyer des associations à la fin des années 80, qui aujourd'hui a fait preuve de son efficacité, qui a assuré le nombre d'appels du Grenelle, puis d'un premier confinement, d'un deuxième, avec des écoutantes formées et expérimentées et qui travaillent avec des services au sein de la FNSF, mais aussi avec beaucoup de partenaires autour. C'est tout un système qui fonctionne bien et qu'il faut préserver. Alors c'est vrai que la mise en concurrence, pour nous, elle est très difficile à expliquer. On est un peu dans l'incompréhension de cette mise en concurrence dans la mesure où nous estimons qu'une subvention complémentaire pourrait nous permettre d'ouvrir ce service 24 heures sur 24 avec des fonds et des financements complémentaires et que nous évidemment la mise en concurrence est toujours un gros risque, pas forcément là dans l'immédiat mais dans les prochaines années. On sait que c'est un marché qui va se renouveler et donc avec notre spécificité qui est celle...
Et vous avez eu une réponse de la ministre Elisabeth Moreno sur ce point ?
Écoutez, pour l'instant, la ministre a fait un pas en avant en décidant qu'il y ait uniquement la possibilité pour l'économie sociale et solidaire de postuler à ce marché public, mais ça reste quand même une mise en concurrence avec des acteurs dans l'économie sociale et solidaire qui sont nombreux et qui sont pas forcément des associations ou des fondations ou des entreprises avec des branches de l'économie sociale et solidaire qui sont engagées comme nous aux côtés des femmes, parce que ce qu'ont besoin les femmes aussi, c'est d'avoir les associations aussi dans l'accompagnement à leur côté. C'est comme ça qu'on fait remonter aussi ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, qu'on peut aussi faire bouger les lois, qu'on peut aussi les accompagner avec du professionnalisme et engagement. Je crois que les deux vont ensemble.
Anne-Cécile Maillefer, pour conclure, parce que nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que cette question justement d'une lecture féministe des violences faites aux femmes est importante et de ne pas la perdre en route d'une certaine façon au profit effectivement d'une prise de conscience beaucoup plus large, mais où la question de la domination, la question du patriarcat, etc., serait progressivement, disons, gommée des motifs d'explication de ce qui est en train de se passer dans la société.
Alors, je pense que c'est important, vous avez raison, de toujours bien le rappeler. Les violences faites aux femmes, c'est un enjeu politique. Les violences faites aux femmes, pourquoi est-ce qu'on focalise sur les violences faites aux femmes versus les violences faites aux hommes? Parce que c'est les femmes qui sont immensément, majoritairement victimes de ces violences-là. Et ça vient d'un système patriarcal, ça vient d'inégalités entre les femmes et les hommes, ça vient de choses qui sont culturelles et pas naturelles.
Ça n'est pas toujours accepté par une partie de l'opinion, c'est ça que je voulais dire.
Mais je crois qu'on est en train... Moi, je suis très optimiste. Je pense que la prise de conscience sur les violences conjugales et plus généralement les violences sexuelles aussi avec MeToo, ça a permis d'ouvrir les yeux à un nombre vraiment très important de personnes. Et je crois que même si tous les éléments d'explication ne sont pas encore parvenus à tout le monde, je crois que quand même on est monté d'un cran en termes de sensibilisation de la population. Et moi, je suis persuadée que les idées féministes sont en train de gagner beaucoup, beaucoup de partie de la population et on n'a pas fini.
C'est ce qui explique qu'un groupe de luxe comme LVMH, on a appris ça tout à l'heure par une dépêche, a décidé de financer 1000 nuitées d'hôtel pour des femmes victimes de violences conjugales par exemple. Et d'ailleurs, je pense que c'est par l'intermédiaire de la Fondation des femmes que ça va se faire, c'est ça ?
Alors effectivement, nous à la Fondation Nos Femmes, on reçoit des dons, y compris des dons d'entreprise, des dons de particuliers et des dons d'entreprise, ce qui nous permet en fait de pouvoir financer des actions, y compris pour combler les trous de la raquette quand l'État, eh bien malheureusement, ne fait pas tout à fait ce qu'il faut. Eh bien, il y a un peu ce qui, voilà, nous on arrive à, comme ça, grâce à ça, à pouvoir soutenir le travail des associations et les aider en urgence.
Merci. Un dernier mot pour.
Qui va réunir
très brièvement.
Tout le monde. Très brièvement, c'est la résolution 4804 des Nations Unies qui dit de faire en sorte que les femmes de toutes conditions, de toutes origines, bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains.
Merci beaucoup à vous, Philippe Calen. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre de Chambre à la Cour d'appel de Paris sur le pôle famille. Merci également à Anne-Céline Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes, et à Françoise Brier, directrice générale de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui, entre autres, gère le 39-19. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bas, Hugo Boursier, Imane Gilles. Merci à la documentation sonore d'actualité, Caroline Chausset et Eva Comblat. À la technique aujourd'hui, Michael Simon. À la réalisation, Assia Ralid. Demain, le temps du débat sera consacré aux migrants. Le démantèlement est-il une politique ?